sur Europe 1, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Et bonsoir Isabelle.
Oui, bonjour Sabine, je suis enchantée de vous avoir au téléphone.
Je suis ravie de faire votre connaissance aussi.
Oui, j'ai 54 ans, j'habite dans le 49. Et voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique. Alors, comment dire, on va faire vite. Hein. J'ai eu un papa de 7 à 7 ans qui a voulu nous tuer avec ma maman.
Oula.
Il a essayé de m'étrangler.
Il était malade ou il buvait?
Oui, non, il était malade. Il était, à l'époque, on disait manico-dépressif. Mais je pense que ça allait au-delà de ça, parce qu'il était armé.
Ah oui.
Et voilà, il était armé. Et donc, nous, on partait en pleine nuit, à des minuit, 1h du matin, en faisant des... Comment dire, ma mère me dit, on faisait le tour du pâté de maison. Bah oui, mais le tour du pâté de maison, ça durait 2 heures. Voilà.
Quelle angoisse pour un enfant, ça devait être pour vous, petite.
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous enfermaient des fois et ils nous oubliaient. Et quand ma mère arrivait, nous donnait une orange, elle se faisait tabasser. Donc, moi, j'ai eu droit au jet d'eau, à l'eau froide, parce que je faisais des crises d'asthme, que le psy m'a expliqué que c'était de l'angoisse.
Oui.
Voilà, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la scolarité parce que j'étais complètement fermée. Je suis dyslexique, je suis en plus une gauchère contrariée et je n'arrive pas à me faire d'amis. J'ai jamais réussi à m'en faire.
Mais oui, vous êtes en mode panique depuis le début, quoi.
Oui, après, à 13 ans et demi, j'ai eu une agression sexuelle et j'ai pas pu en parler à ma maman. C'est un jour qui, au bout de 6 mois, m'a dit « Mais tu vomis, ma fille, c'est pas normal. » Je suis descendue à 35 kilos, je suis tard. Et je commence tout juste à 54 ans à remonter la pente, mais vraiment bien parce que je suis assez à plus de 50 kilos. Et malgré tout ça, je recherche un père de substitution. Mais ça, je suis suffisamment fine parce que j'ai fait une analyse. Hein, je vois mon psy depuis l'âge de 20 ans.
Et vous savez comment vous fonctionnez en tout cas, ça s'entend.
Voilà, il m'a dit que je fonctionne bien et que vu tout ce que j'avais vécu avec mon père... Et l'agression sexuelle, et j'ai aussi un pervers narcissique qui, hélas, m'a violée pendant un an. Enfin, bref, j'ai eu la totale, j'ai réussi toujours à remonter, et puis là, j'ai eu mon meilleur ami qui est décédé, qui était un jeune homme bipolaire. Alors, moi, je suis bipolaire, mais dépressive chronique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai tendance à être dans la dépression.
Vous êtes plus en bas quand vous...
Voilà, quand ça ne va pas. Donc, j'avais tendance à aller un petit peu vers l'alcool, mais mon psy me disait, vous n'êtes pas un alcoolique. Alors, il faudrait savoir. Donc, j'ai fait l'AA, bon...
Alcoolique anonyme.
Voilà, exactement, pendant un an et demi. Ça m'a servi pour beaucoup plus tard, pour apprendre quand j'avais des idées suicidaires, de repousser de 1/4 d'heure, 10 minutes, 20 minutes, voyez. Voilà, scarification.
Calmer le cerveau d'abord.
Voilà, exactement, comme vous dites, calmer le cerveau. Et puis là, j'ai eu un des problèmes utérins de cisaillement. Je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Je trouvais que j'étais passée par des choses tellement dures et que mon psy m'avait dit « Vous avez de la chance, vous n'êtes pas tombée dans la drogue. » La haute délinquance, il me dit « Vous êtes plutôt bien sortie. » Bon, d'accord, ok, ça me fait une belle jambe. Donc, j'ai été mise en invalidité très tardivement. Et là, je viens d'apprendre que j'ai un kyste au sein. Et là, je suis complètement...
Vous avez peur?
Ah, c'est plus que ça, quoi. Ouais. Mon meilleur ami qui est décédé, qui était en fauteuil, je lui dis, je ne me foutrai jamais en l'air, parce que quand je l'ai vu dans l'état où il était, je me suis occupée de lui, je lui dis, je ne le ferai pas. Mais maintenant que je me dis, s'il doit y arriver un truc comme ça, je crois que je serai capable de le faire. Tellement je suis... Et quand je dis que je n'ai pas d'amis, j'ai téléphoné à SOS Amitié, quand ils me disent, mais vous avez des amis, je dis, non, mais je crois que les gens ne voient pas, quoi. Quand je dis que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Et le processus d'une personne qui est bipolaire et comment dire, dépressive chronique, elle a tendance à s'enfermer.
C'est l'enfermement, oui, c'est ce que j'allais vous dire. La seule issue pour vous, c'est la seule sécurité, en tout cas, c'est ce que votre cerveau pense. C'est l'isolement, c'est de vous replier sur vous-même.
Voilà, exactement. Je suis quelqu'un d'hyper sociable, je suis une littéraire, mais confirmée. Voilà. Mais ça ne change rien. Et puis quand vous dites aux gens que vous êtes en invalidité, je vous assure que le regard, il est méprisant.
Oui, mais ça leur appartient. Laissez-leur ce qui leur appartient, négatif,
oui, je sais.
Franchement. N'accordez pas d'importance à ce qui n'en a pas.
Et donc, je suis célibataire. J'ai vécu 3 ans avec un pervers narcissique. Et à la fin, je lui dis, si tu continues à violer, ben moi, c'est simple, je te tue. Et puis, je me présente à la police. Voilà, parce que j'avais plus rien à perdre. Et ensuite, j'ai vécu avec un homme pendant 10 ans.
Mais attendez, vous allez un peu vite. Là. Comment ça s'est terminé avec ce pervers, alors, quand vous l'avez dit?
Ah, je suis partie parce que j'ai rencontré un psy à Orange qui m'a dit, il faut absolument partir, vous allez laisser votre peau.
Ben oui, c'est ça.
Mais j'étais en contrat de travail avec lui, donc c'était très, très, très dur.
Comment vous avez
je
fait?
Je ne sais pas comment j'ai fait. Sincèrement, je ne sais pas. Je me rappelle, j'ai appelé ma mère me disait que je l'ai appelé jusqu'à... C'était 3-4 heures du matin, et elle ne savait pas du tout de ce qui se passait, quoi. Elle voyait que ma morphologie changeait, j'étais pas comme d'habitude, mais je pouvais pas lui dire que... vous savez, les pervers narcissiques, c'est des gens qui au début vous disent « Oh, vous êtes bien », puis après vous disent « Mais t'es moche, mais t'es qu'une merde.
Ben » C'est le but, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est souffler le chaud et le froid. Et c'est... Les pervers narcissiques ne se sentent bien que quand l'autre se sent mal.
Voilà, et en plus je bossais bien dans sa boutique. Voilà.
C'était facile pour lui, vous avez sous la main.
Exactement. Ouais. Oui. Et d'un certain temps, je lui ai dit, j'ai oublié de me pendre, je lui ai dit, là, je pars.
Vous avez réussi à partir quand même, c'est une sacrée victoire.
Hein. Oui, j'ai réussi à partir. Mais ça a été un échec hein, pour moi. J'ai eu l'impression de vivre un échec. C'est-à-dire, je me suis sentie coupable, vous voyez. Je me suis sentie littéralement coupable.
C'est son travail de sape qui a fonctionné, parce que ce n'est pas le cas, vous n'êtes coupable de rien, c'est lui le coupable. Ce n'est pas vous,
voilà.
C'est la victime, vous.
Bah oui,
je
sais, mais c'est pas évident. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré un monsieur. Et alors, mon psy me dit, vous avez le don de les attirer. Alors, je dis, je crois que je répète ce que mon père m'a fait. Mon père m'a pas violée, mais il me tabassait tous les jours. Voilà, une gifle tous les jours, privé de manger, la douche, enfermée, oubliée à l'école.
Donc,
et puis, merde, je veux que tu meurs. Moi, il m'a toujours dit, il faut que tu meurs avant moi. Donc, vous voyez, c'est très, très dur.
Oui, mais en même temps, vous avez compris aujourd'hui que c'est pas lui qui parle, c'est la partie malade. De
oui, c'est pas lui, oui.
C'est la maladie qui parle. Quand on appelle
des extrêmes
comme ça, ça n'a plus aucun sens.
C'est délirant. J'en ai bien conscience, quoi. Mais ça reste mon père.
Oui, je sais bien.
Et mon père géniteur, quoi qu'il advienne, quoi.
Oui.
Voilà. Et puis, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai vécu 10 ans, avec des enfants magnifiques, où je me suis vraiment épanouie. Et cet homme a attendu, alors qu'il savait que j'étais anorexique, hein, il a attendu plus de 4 ans pour me dire que c'était un homosexuel refoulé, voilà. Mmh. Et je suis passée pour la conne de service dans la famille. Et ça m'a fait mal de chien, donc depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'avoir des relations, hein, tout simplement.
Pourquoi la conne de service? Je vois pas le lien.
Parce que il avait des parents qui étaient très bourgeois, très... et il disait, oh mais Isabelle... elle est en invalidité, donc elle a des problèmes. Et moi, il me faisait cacher ses valises où il s'habillait en femme. J'en avais parlé avec mon psy. Et il se mettait des gobes, excusez-moi, dans le derrière, des choses comme ça. Il m'a fait pratiquer des pratiques qui n'étaient pas les miennes, qui m'ont carrément cassée. Donc à la fin, je lui dis, je te quitte. Au bout de 10 ans, je dis, je te quitte parce que là, moi, je ne vais pas m'en sortir. Je dis, maintenant, tu assumes ton homosexualité, c'est pas grave. Mais tu l'assumes. Ouais. Et comme il venait d'un milieu très chrétien, il ne l'a pas assumé. Voilà. Et moi, je suis partie. Je suis partie parce que je lui dis, on ne va pas les deux dans le mur. Hein.
Moi, ce que j'entends quand même, c'est que vous avez une sacrée force de résilience parce qu'à chaque fois, vous avez réussi à partir. Taper du pied dans le fond de la piscine pour remonter à la surface. Quoi. Mais oui, quand même.
Et vous savez, cet homme-là, je ne lui ai jamais dit ce qui m'était arrivé, parce que c'est pas facile à dire à quelqu'un tout ce qu'on a subi, quoi. Et voilà. Et c'est dur, parce que je crois que si je rencontre quelqu'un d'autre, j'ose plus dire tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai peur d'avoir une...
Une étiquette.
Voilà, exactement, une étiquette. Voilà.
Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu choquée. Vous me dites que votre psy vous a dit, décidément, vous les attirez.
Oui.
C'est un peu brutal.
Elle m'a dit...
Enfin, je ne sais pas, son rôle, c'est plutôt de vous apprendre à ne plus les attirer plutôt que de vous dire ça, non?
Bah oui. Il m'a dit, vous avez, je ne sais pas comment vous faites, vous les attirez. Bah oui, j'ai dit, bon, je les attire.
Et une fois qu'on a dit ça, son job, c'est quoi, justement?
Bah, je ne sais pas, je lui ai dit, j'attire, parce que j'ai dit, je fais ce que mon père m'a dit, que je devais décéder avant lui. Ça, il me l'a dit, à 35 ans, il a fait une thèse avec moi, et il m'a carrément dit, je veux que tu meurs avant moi. C'est toi qui dois mourir avant moi.
Et du coup, il y a une partie de vous qui souhaite disparaître aussi. C'est souvent oui, ça,
exactement. C'est très dur. Voilà. Voilà. Je ne prends pas, pour une bipolaire, je ne prends pas d'épacol, je ne prends rien, je prends juste de la fluoxétine, un comprimé par jour. Et pas d'addiction.
Pourquoi vous ne prenez pas de médicaments contre la bipolarité?
Parce que j'en ai pris et je me suis aperçue que ça m'endormait et que ça ne me faisait strictement rien. Et que c'était juste quelque chose qui... je me suis dit, je sais que je peux m'en sortir par moi-même. Je pense que j'ai suffisamment de force. J'ai pardonné à mon père, vous savez. Hein. Je lui ai pardonné.
Comment vous avez fait pour lui pardonner?
Oh, je l'ai fait très tôt. À 35 ans, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, je te pardonne. Seulement, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça sur tes enfants. Parce que moi, je n'ai pas d'enfants. Je n'aurais pas voulu faire la même chose. Et là, la fête des pères, je l'ai envoyé dans une EHPAD. Je suis allée le voir. Il est juste revenu ce qu'il était avant, un petit rang. Et j'ai envoyé un billet de 10 euros. Voilà, je lui fais toi plaisir. Mais il n'a pas mon numéro de téléphone. Je l'appelle de temps en temps. Et il est content à ce que je vois de me voir au téléphone. Mais je sais que c'est une bombe à retardement, mon père. Voilà.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il peut être gentil et tout d'un coup, il peut vous lancer une saloperie, quoi.
Ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, il a encore un pouvoir de nuisance sur vous?
Oui, je pense, parce que quand je l'ai vu de visu, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je l'ai qu'au téléphone une fois par an, même pas.
Et quand vous lui avez dit que vous lui pardonniez, donc vous aviez 35 ans, ça fait presque 20 ans maintenant, qu'est-ce qu'il...
Il était content.
Comment il a réagi?
Il m'a pris dans ses bras, ouais. Il m'a dit « je t'aime ». Et une semaine après, il a appelé mon parrain et ma marraine et il a dit « ma fille est folle ». Elle dit qu'elle m'aime, elle est folle.
Il est malade, quoi. Il est vraiment très malade.
Oui, je sais.
Malheureusement, vous espérez un comportement normal de quelqu'un qui ne l'est plus depuis longtemps.
Oui, je sais. C'est un gros deuil.
Et oui.
Et donc, je me trompe avec les hommes avec qui je vais, parce que les gens qui pourraient être bien, bah, je les écarte parce que je n'ai vécu que des choses négatives.
Vous restez en terrain de connaissance. Voilà, vous restez en thérapie.
Voilà, j'en ai conscience. Hein. Le pire, c'est que j'en ai conscience.
Bah, depuis le temps, vous êtes en thérapie. Oui, j'espère qu'on vous a fait travailler là-dessus. Prendre conscience
oui,
de ça, c'est
bah,
important.
Oui. Alors, voilà.
Paradoxalement, c'est ce qu'on appelle sa zone de confort, qui est pourtant très inconfortable.
Oui,
mais au moins,
fait.
Là, vous avez les codes dans cette zone-là.
Ouais, exactement. Je sais que je ne suis pas bien, puisqu'on va me lancer à la figure. Et donc, je me dis, bah, ça ne fait que confirmer ce que mon père me dit de 0 à 7 ans et même après, quoi. Et j'ai beau essayer de me débarrasser de ça. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais tu ne te rends pas compte comment tu es forte avec tout ce que tu as...
Mais c'est vrai.
Tout ce que tu as encaissé. Mais après ça, quand j'ai dit ça à cette personne, elle est partie, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai dû lui faire peur. Faire peur parce que, bah oui, quand vous avez eu une agression sexuelle... un compagnon qui vous viole, un autre qui est mou, un homosexuel refoulé, bon, qui dit d'avoir une sexologue, c'est pas grave, ça, c'est ta sexualité, mais si tu me fais du mal, tu vas faire du mal aux autres, ça sert strictement à rien, quoi.
Non, puis c'est encore quelqu'un qui ne vous a pas respecté, surtout, c'est ça le schéma répétitif.
Oui, c'est une personne, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit la même chose.
Mais
qui
oui.
m'a dit, vous êtes dans le déni, vous n'avez pas accepté, cette personne ne vous a pas pris en considération.
C'est la partie de vous qui pense qu'elle n'a pas de valeur et qu'effectivement, il vaut mieux qu'elle disparaisse.
Oui.
Mais ça serait bien que vous appreniez, Isabelle, à écouter l'autre partie de vous, celle qui est forte, qui est grande, qui est adulte et qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et comment elle doit être.
Oui. Mais je trouve ça un peu triste à 54 ans, quoi. Voilà. Quoi.
Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous trouvez ça triste à 54 ans?
Parce que j'espérais finir mes jours quelqu'un qui arrivera à me comprendre, mais je crois que c'est très très dur, le regard des gens est très 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 dur.
Alors je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est votre regard sur vous-même qui est très dur.
Oui, peut-être. J'étais très dure avec moi-même.
Et voilà, c'est ce que j'entends.
J'étais très très dure pour ne pas m'enfoncer, quoi.
Et donc, bien sûr, on a besoin de trouver des ressources là où on peut, mais quelquefois, ce ne sont pas forcément les bonnes ressources, en tout cas, pas sur le long terme. Et ce regard dur avec vous-même fait qu'en miroir, vous ne percevez que les gens qui ont ce même regard sur vous. Vous ne voyez même pas les autres, probablement. Vous
n'y arrivez pas. Non, c'est ce que mon psy m'a dit aussi.
Bah oui.
Il m'a dit, vous voyez pas, parce que j'ai fait des interventions littéraires, il m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez, que j'ai même pas, j'ai un bac de substitution, mais il m'a dit, vous avez des connaissances littéraires, philosophiques, il m'a dit, mais c'est impressionnant. Si je ne l'ai pas fait exprès, j'ai dit, docteur, c'est ma façon à moi de vivre autre chose, voilà, où je ne suis pas cassée, et dans les livres que je lis, c'est souvent des choses, des gens qui sont fracassés, mais qui montent toujours une marche, qui n'en descendent jamais. Ça, c'est mon béaba. Il faut que le personnage s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Mmh. Même si c'est qu'une marche, mais c'est une marche.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ça qui me... Alors, des gens me disent, oh, mais c'est des romans, c'est pas de l'art. Non, c'est la vie. Vous montez une marche, après, vous pourrez en monter une deuxième. Mais c'est la première qui coûte le plus.
Mais ça, vous l'avez compris et vous l'avez déjà monté, cette première marche.
Oui.
Vous êtes debout, vous êtes là, vous me parlez ce soir. Oui. Par contre, j'entends que vous avez du mal à recevoir les compliments. C'est difficile pour vous, hein.
Oui, très dur. Très, très dur.
Là aussi,
jamais eu de compliments. Non, j'ai jamais eu de compliments.
Mais vous avez dit une chose très importante, vous avez dit, pour tenir debout, il a fallu que je sois dure avec moi-même. C'est-à-dire que...
Oui.
Pour trouver de la force, vous avez transformé la force en dureté.
Oui.
On peut être fort sans être dur.
Il va falloir que j'apprenne ça parce que je ne sais pas comment.
C'est la marche d'après, c'est-à-dire arriver à être bienveillant avec soi-même, fort contre les autres. Mais être fort, ce n'est pas être en guerre contre soi-même.
D'accord.
Vous voyez. Et ça, je pense que ça sera une marche extrêmement intéressante au niveau de l'apprentissage de qui vous êtes profondément, dans toutes vos facettes, et pas uniquement dans la facette de celle qui souffre.
D'accord.
Parce qu'il y a aussi en vous, et on l'entend, cette femme qui est résiliente, qui effectivement, que vous disent vos amis, vous avez surmonté beaucoup de choses.
Oui. J'ai mon meilleur ami, c'est mon petit frère de cœur. Bah, vous voyez, il était en fauteuil, je l'ai lavé, je lui donnais à manger,
Combien de gens auraient fait ça?
Moi, ça m'a paru complètement normal, je vais vous dire. Je l'ai vu, quelqu'un de ma famille, voilà. Et quand il est décédé, j'ai dit, il aime Madonna, on va lui mettre Madonna. J'ai réussi à faire venir un prêtre parce que les personnes à côté n'étaient pas des gens croyants. Et lui était croyant. Mm-hmm. Et j'ai dit, non, il faut qu'il parte, il faut qu'il y ait un prêtre. J'ai réussi à ce qu'il ait une médaille sans que personne le voit. Parce que j'ai dit, il est croyant, il allait à Lourdes tous les ans. Et j'ai dit, c'est une force, il a besoin de partir avec ça. Voilà.
Vous avez respecté qui il était.
Oui, exactement. Je pense que c'est très important.
Et vous ne pensez pas que maintenant qu'il n'est plus là, justement, vous pourriez vivre pour deux et vivre pour lui aussi?
C'est ce que j'essaye.
Notre temps sur cette terre est compté pour tout le monde. On ne sait pas combien
de
temps ça va durer.
Vous savez, je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai eu la chance de connaître mon grand-père maternel qui est décédé à la campagne. Donc on faisait des veillées funèbres.
Mmh, des vrais deuils à l'époque.
Oui, voilà, exactement. Voilà, et donc il n'y avait pas de, c'était pas quelque chose de caché. Et on est dans une société où on cache la mort, où la jeunesse est toute puissance. Et comme je dis, mais est-ce que vous avez conscience que quand une maman donne vie, elle donne mort à son enfant?
Et oui, c'est ce que je dis souvent. C'est un package. On peut pas avoir la vie sans la mort.
Voilà, exactement. C'est la logique de la vie, donc faut le savoir, quoi.
Mais on le sait, mais comme vous dites, on est dans une société qui est dans le déni complet. On ne montre pas les vieux, on ne montre pas les malades, on ne montre pas la mort, on n'en parle pas. Et quand ça nous frappe, parce que ça nous frappe forcément tous, on est anéanti.
Oui, exactement.
Et ce temps de deuil dont vous parlez est extrêmement important. Vous vous rendez compte, quel âge vous aviez quand ce grand-père est parti?
Oh, j'avais même pas 7 ans.
Et vous vous en souvenez encore?
Mais j'ai veillé, ma grand-mère m'a dit, t'es pas obligée. J'ai dit non, je vais avec mon grand-père, je l'ai trouvé bien. Il était décontracté, je ne sais pas. J'ai parlé avec lui. Et vous voyez, cet ami, celui qui est décédé, il a une spéciale, peu importe. Hein. Son compagnon est venu. Il était étonné que je lui parle. Il me dit, c'est toujours comme ça. Je dis, non, je suis moi. Et je lui parle. Et je lui ai fait un bisou sur le front. On a rigolé. Et voilà, je lui dis, il passe une étape au-dessus. Je vais aller au-dessus, mais je dis, là, on peut lui parler, on peut lui dire tout ce qu'on a envie. Mmh. Et j'ai accompagné comme j'ai pu, quoi. Voilà.
Mais vous l'avez, cette extraordinaire énergie, Isabelle. Vous l'avez quelque part en vous, hein, évidemment.
D'accord.
C'est juste que pour l'instant, il y a encore une partie de vous qui l'image que j'ai, c'est la petite fille qui est encore en colère.
Oui, je crois, oui.
Et c'est elle qui vous empêche d'avancer pour l'instant. Mais vous avez quand même fait un sacré chemin, de ce que j'entends là. C'est une sacrée...
Et vous savez, excusez-moi de vous interrompre.
Oui, j'allais vous faire un compliment, c'est normal que vous m'interrompiez. Ça va pas.
C'est excellent. Ah oui, d'accord, alors allez-y pour le compliment.
Non, j'ai plus envie maintenant.
Ah bon, alors d'accord. C'est juste que quand les gens me parlent de la souffrance et qui disent « Ah, mais un tel a pas su faire ceci, cela », et moi je leur dis « Écoutez, vous mettez 10 personnes en face, hein, à peu près, hein. Vous leur donnez une gifle, sans dire pourquoi. Ouais. Imagine, vous allez voir celui qui va pleurer, celui qui va dire pourquoi, celui qui va vous la rendre.
La rendre, oui, c'est ça aussi.
Celui qui va avoir de la colère. Et puis, dernièrement, j'ai un monsieur qui m'a dit « Mais on peut esquiver ». Et ça, ça m'a parlé, parce que moi, je n'ai jamais esquivé les coups. Je les prenais en pleine figure.
Oui. Mais on vous a pas appris à esquiver non plus. C'est facile.
Non, on m'a pas appris.
Et voilà.
Non, voilà.
C'est pas inné, donc, hein, pour un enfant.
Oui. Mais les gens ne se rendent pas compte, de 0 à 7 ans, vous savez, on vous formate. Hein.
Ah, complètement. C'est là où tout se construit.
Ah, c'est un truc de dingue, hein. Les gens disent « Ah, mais maintenant, t'as... » Non, si j'ai une collègue de travail, j'avais une trentaine d'années passées, qui m'a dit « Mais Isabelle, c'est super agréable de parler, de travailler avec toi, t'as le sourire, t'es prêt à faire ceci, cela, même si c'est pas dans ta branche, bon. » Elle me dit « Tu n'as pas de projet. » Et je lui dis, et après je suis rentrée, je dis « Bah oui, j'ai pas de projet, parce que comme j'ai eu un père qui a toujours voulu me tuer, comment voulez-vous vous projeter dans une semaine, dans un mois, dans quelque chose ? On peut pas. »
Bah, il arrive un moment où on peut faire un reset avec le passé quand même. On peut lui tourner le dos et décider de regarder devant.
D'accord.
D'enlever ce pouvoir-là justement à votre père et de reprendre votre vie en main à vous, comme vous le souhaitez, vous reconstruire avec vos matériaux à vous.
D'accord.
Et le compliment que j'allais vous faire, c'était de vous dire vous êtes merveilleuse, mais ouvrez les yeux pour vous en rendre compte.
Bon, bah, d'accord. Écoutez, je t'entends.
Mais oui.
Je vous remercie de m'avoir reçu sur l'antenne. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de monde. J'apprécie.
Pas ce soir, pour être honnête. C'est assez bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le début des vacances ou si les gens sont endormis. C'est un peu dommage. C'est les deux dernières soirées du week-end. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'appels. Mais bon. Vous allez me faire un compliment, peut-être ?
Comment ?
Vous allez me faire un compliment, peut-être ?
Moi, j'adore votre émission. J'en ai même parlé à mon psy qui ne connaissait pas. Et je lui ai dit, écoutez, dans les yeux d'Olivier aussi, et je lui ai dit, écoutez, c'est formidable parce que j'ai remarqué que les femmes parlent d'une manière plus honnête, enfin pas plus honnête, plus ouverte, voilà, plus ouverte. Les hommes sont un petit peu plus sur la réserve, je ne sais pas si c'est lié à leur virilité ou le quoi pensent-on.
L'éducation aussi souvent. Hein.
Voilà, l'éducation. Et vous savez, j'ai une jeune fille... où j'habite, qui, alors là, je me suis foutue en pétard, hein, qui me dit oui, au gouvernement, il n'y a que des violeurs, il n'y a que ceci, il y a cela. Alors là, je suis rentrée en colère. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, là, j'ai osé me permettre parce que moi, j'ai fait un travail sur moi. Je lui ai dit, on n'accuse pas les gens comme ça. Il y a la présomption d'innocence. Et d'une, quand on lance des trucs sur des réseaux sociaux, moi j'en ai pas, des réseaux sociaux avec des pseudonymes, pour moi, ça n'a aucune valeur. Mmh. Voilà. Et j'ai dit à cette jeune fille, alors là, elle est restée quoi ? Je dis, moi j'ai subi une agression sexuelle, j'ai subi un viol, j'ai subi le viol du violeur, parce que mon psy n'a pas voulu que je fasse une hypnose, parce qu'il m'a dit, ça va carrément vous casser. Donc je l'ai écouté. Alors je lui dis, il faut arrêter de, avec vos réseaux sociaux, croire tout et n'importe quoi. Et puis, je lui ai remis en face, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont maltraités et qui ne vont pas porter plainte parce que c'est leur virilité qui est atteinte ?
C'est vrai,
voilà.
Aussi.
Et je ne sais pas si cette jeune fille de 25 ans a bien tout compris, je l'espère. Mais en tout cas, je lui ai dit, la présomption d'innocence, pour moi, ça a du sens. Et on n'arrête pas des choses comme ça sur MeToo, machin, parce que je dis ça, c'est franchement, c'est infâme. Et comment... Parce que les gens ne peuvent pas se défendre.
Comme beaucoup de gens qui ont subi des injustices, vous avez une valeur justice qui est très importante.
Oui.
Et vous réagissez très fort aux injustices aujourd'hui, évidemment.
Oui, et quand il y a des choses, vous voyez, comme ça, je dis, moi j'ai subi ça, ça ne m'empêchera pas de défendre les hommes, parce qu'il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même...
Il ne faut pas tout mélanger, bien sûr.
Voilà, il y a des gens très bien, il y a des hommes très bien, charmants, tout, doux, et puis il y a des femmes aussi qui sont pas... Voilà, c'est des histoires de vie, mais il ne faut pas tout confondre. Et j'avoue que cette société me fait très peur, au niveau des réseaux sociaux, parce que je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Et quand je vois au niveau des médias, c'est... Mais mon sang, j'ai la présomption
d'innocence.
Oui, qui met mon sang, elle a du sens, quoi. On a, vous vous rendez compte, mais du jour au lendemain, c'est la rumeur qui part et puis qui peut foutre en l'air une famille,
il y a plus de limite,
une carrière, tout. Oui, oui, c'est terrible. Je trouve ça terrible. Voilà, quoi. Maintenant qu'on n'est pas à la force de porter plainte, ça, c'est autre chose. Mais on ne le fait pas par des biais comme ça. Je trouve que c'est pas bien. Voilà. C'est ma conception à moi de ce que j'ai vécu et de ce que je ressens. Voilà.
Et oui, ça s'appelle la justice aussi, ça, l'équilibre.
Oui, exactement.
Il y a Tony qui envoie un petit SMS pour vous qui dit « Isabelle a une belle et douce voix, j'adore son rire, je le trouve joli et joyeux.
» Beaucoup de gens me disent que quand ils me voient, vous avez un sourire magnifique. J'ai envie de leur dire « Si vous saviez mon passé !» Mais je pense que le sourire, c'est gratuit. Et c'est tellement gratifiant de donner un sourire aux gens.
Je trouve que c'est une politesse, ce sourire. J'aime bien cette formule.
Ah, bonjour, au revoir. Moi, je vois des petits couples, des fois, je les trouve adorables, qui se tiennent le bras, tout. Vous savez, on est dans une société, les gens tombent, on ne les ramasse pas. Ça va, madame? Oui, oui. Il y en a qui rigolent, mais j'ai envie de dire, mais c'est pas drôle. Vous, un jour, vous aurez cet âge-là. Alors, la chose que je dis aussi... Ça peut paraître, mais j'ai remarqué que ça fonctionnait. Quand quelqu'un insulte, je dis, mais si c'était votre mère, si c'était votre sœur,
très juste,
si c'était votre femme, si c'était votre nièce, votre grand-mère, vous auriez ce type de comportement? Ah non, ah non. Mais alors pourquoi vous le faites avec ce type de personne? Vous voyez, on est dans une société très, je ne sais pas comment dire... Il manque de sentiments, il manque de d'empathie.
D'humanité.
Oui, d'humanité. Oui. Beaucoup oui. Et c'est pas mon mode de fonctionnement pour moi.
Vous êtes remplie de sagesse, Isabelle.
Bah, j'en sais rien. Je fonctionne avec mon petit bout de chemin.
Mais je vous le souhaite long et riche, ce chemin maintenant qui est devant vous.
Bon, eh bien, écoutez, si tout s'améliore, je vous rappellerai.
En tout cas,
je vous souhaite de bonnes vacances. Hein. Et merci à toute votre équipe. Et vous êtes génial.
Merci.
Génial. C'est très agréable. Et je vous le dis, ce que j'entends, ce n'est pas négatif. Parce que moi, j'entends des choses, des gens qui s'en sortent. Et je trouve ça très bien. Voilà. Parce qu'il y a toujours des solutions, mais on ne les voit pas. Voilà.
Merci.
Je crois que c'est ça, la vie.
Merci mille fois, Isabelle.
Ben, je me permets de vous embrasser, à vous et toute votre équipe, et continuez, parce que c'est que du bonheur. Voilà.
Je vous embrasse très fort.
Merci bien.
Au revoir, Isabelle.
Au revoir.
Sur Europe 1, vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et c'est Brigitte que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Sabine.
Alors on se connaît ?
Oh oui, on se connaît, j'ai déjà appelé plusieurs fois. Je suis la mère de famille de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, dont des jumelles.
Alors moi je le sais bien, mais pour ceux qui n'étaient pas forcément
alors,
jeunes,
voilà.
Vous voulez bien nous faire un petit résumé Brigitte.
Voilà, alors j'ai un fils de 38 ans, des jumelles de 34 et un dernier de 29. Alors moi, comme je dis, les gens qui désespèrent de trouver en ayant des enfants, j'ai un mari, mon deuxième mari, m'a pris en gros lot, moi mes kilos en trop, 3 enfants, le chien en a fait un quatrième.
Et bien, il avait un grand cœur.
Par agence matrimoniale et ça fait 30 ans.
Formidable.
voilà. Hein. Donc, j'ai mes deux filles, il y en a une qui est infirmière, qui a 2 enfants, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 7 mois. Alors, mon petit-fils, c'est un tombeur. Là, c'est pas comme Tintin de 7 à 77 ans, c'est de 3 mois à 100 ans.
Il est fait tout craquer.
Il est métis clair, métis guadeloupéen, et il a des yeux gris, un sourire ravageur. Mais alors, pouf, enfin, c'est tout le monde qui tombe en pas moins de vol.
Vous n'êtes pas sorti des prisons de nuit avec lui, hein?
Non, d'ailleurs, on va camper, et comme il ne craint pas eu, j'ai dit, je vais attacher ma petite chienne avec une corde à linge, et lui avec une corde à linge. Et moi, je faisais ça, hein, pour pas courir derrière les enfants. J'ai jamais couru derrière mes enfants, moi, ils avaient une corde à linge en plus de leur harnais, et la corde à linge était attachée à mon pied. Donc, comme ça, ils pouvaient courir, il n'y avait pas de danger. C'est pas comme les gens à la plage qui sont tout le temps en train de garder après leur corde. Et quand on a des jumeaux, ben, on a deux mains, hein. Donc, un enfant, des bagages et des jumeaux, les harnais avec les cordes à linge, c'est très utile. Évite des accidents.
Donc, voilà qui est dit.
Voilà. En parlant d'accident, donc, mon autre fille était ébéniste. Et il y a 9 ans, elle a été amputée de plusieurs doigts. Les greffes n'ont pas pris. Donc, elle s'est retrouvée sans pouce.
Suite à un accident de travail.
Oui, un accident de travail. Sans pouce, sans index. Il restait une phalange au majeur, une et demie à l'annulaire et il manque donc de l'auriculaire. Quelques mois après, on a retiré l'os dans la main du majeur et on a pris la phalange pour lui faire un micro-pouce. Mmh. Voilà. Alors, ça a été des années de rééducation, de douleur, parce qu'en plus, elle est allergique médicamenteuse. Mmh. Hein, quand elle a eu son accident, elle avait eu de la morphine, elle a eu de la kétamine et 3 heures après, un maximum de doses de tout, elle était toujours consciente. Hein.
Mmh.
Ah oui, et donc elle est comme mon père, on lui met par exemple une perfusion qui doit faire effet 6 heures, 2 heures après, ça fait plus d'effet. Même qu'à l'hôpital, j'ai poussé une gueulante parce qu'il disait, mais elle se drogue. Et alors elle avait beau dire, mais j'ai comme mon grand-père, à 25 ans, c'est quand même pas une gamine, hein. Et parce qu'elle devait toujours aller chez les anesthésistes pour qu'on lui remette directement, on branchait le médicament au niveau de ses pieds, quoi. Et donc, il y a 4 ans, elle l'a dit, ben je vais me lancer dans des études de kiné.
Donc, elle est bien d'accord, elle n'a pas eu de prothèse, simplement une opération.
Non, elle n'a pas de prothèse, non, elle a sa main.
Elle a un pouce, quoi, un petit pouce.
Bon, elle a fait un petit pouce, elle va encore avoir ça, je ne sais pas, quantième opération, et on va lui remettre ses tendons, enfin, je ne sais pas trop, pour allonger son pouce d'un centimètre.
D'accord.
Elle aurait bien voulu avoir une deuxième phalange au niveau du majeur. Au niveau de l'annulaire, mais c'est trop compliqué.
Mmh.
Et puis alors, elle a eu des problèmes, elle a une fracture de vertèbre, donc elle a eu des problèmes d'épaule, enfin, je vous dis pas.
Elle est courageuse, votre fille.
Tout ce qu'elle a eu entre-temps. Ben, disons que mon père a été un très, très grand brûlé. Ben, pour dire, il était aviateur et l'avion fondait. Donc, c'est un petit peu chaud.
Mmh.
Et il a même eu la marque de sa montre dans la peau. Et tout le monde avait dit qu'il ne revolerait pas, et puis il a revolé, et puis il partait tous les jours, on n'avait pas les séances de kiné, de tout ce qu'on voulait comme ici, il prenait le train, il prenait le bus pendant 2 ans, et tous les jours il revenait les mains en sang, donc il fallait travailler ses mains.
Mmh.
Hein? Et ben voilà, il a dit, c'est comme ça, et quand ma fille a été amputée, il lui a dit, tu dois accepter tout de suite, ça ne repoussera pas, c'est comme ça, il y a un avant, un après. C'est à toi de l'accepter. Plus vite tu vas l'accepter, mieux ça vaudra.
Mmh.
Et moi, je m'étais attendue encore pire qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai pu voir son pansement. Pour moi, c'était moins grave que ce que je ne pensais, moins vilain, je veux dire. Hein. Pendant 4 mois, elle n'a pas pu conduire. Alors, elle était complètement isolée. Elle était logée par le patron dans un village où il y a une boulangerie et une pharmacie. Il n'y a pas de voisin, il n'y avait rien du tout. Et heureusement qu'elle avait son chien, ce qui lui a permis de garder la tête hors de l'eau. Parce qu'elle était à 2 heures de chez moi.
Parce que c'est un très joli discours qu'a eu son grand-père, mais il faut y arriver aussi. Hein.
Ah ben oui, mais mon père a une volonté. C'est ça, on a une volonté, et plus encore les filles que les garçons. Hein. Enfin, moi, j'ai cette volonté, mes deux filles aussi. Hein. Et donc, mon père lui a dit, tu dois accepter tout de suite. Et du fait qu'elle a accepté assez rapidement, hein, bon, oui, il lui manquait des doigts, mais elle a toujours vécu du maximum qu'elle pouvait normalement.
Mmh.
Et nous, on n'a pas fait attention à cet handicap.
Oui.
Alors, il y avait une fois, elle était à la pharmacie, il y a eu des vieilles biques, parce que j'appelle des vieilles biques, qui ont dit « Oh, ben, elle peut bien entendre, elle a que ça à faire.
Oh. »
Alors qu'elle avait une main, elle n'avait plus de doigts, mais non, elle avait que ça.
C'est odieux, ça, vraiment.
Voilà. Ah oui, ah, oui. Bah, si, elles ont eu de la chance que je n'étais pas là.
Elles s'en sont plus une, à mon avis.
Oui, mais alors, disons que c'est vrai qu'il y a un avant et un après, mais elle a fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites si elle était restée valide. Elle a fait de la des bâtons de plongée. Elle s'est lancée dans la natation d'e-sport parce que bon, elle nageait déjà et dans sa rééducation, elle a fait de la natation et de la rééducation en bassin. Et comme elle aimait bien nager et que son moniteur était l'entraîneur de l'équipe en e-sport,
ah oui.
Il lui a demandé si elle ne voulait pas faire partie de l'équipe de natation d'e-sport. Donc grâce à ça, elle était plusieurs fois championne de France de natation d'e-sport. Elle a qualifié plusieurs fois son club aussi, enfin même gagné son club, puisque bon, grâce à elle.
Formidable.
Et puis donc là, elle a décidé d'être kiné. Et elle n'a pas su être prise en kiné ici, elle était prise en kiné à Tournai. Elle était, à ce moment-là, pour rendre son dossier, il fallait être motivée parce qu'elle était dans le sud de la France pour accompagner des handicapés. Elle a passé sa journée de congé dans le train pour aller porter son dossier à Tournai et redescendre pour travailler le lendemain.
Mais il n'y avait pas, de blocage quand elle a dit qu'elle voulait faire kiné? Personne ne lui a dit que ça allait être impossible ou que ça allait être trop compliqué?
Non.
Ou...
non, non. Nous, on lui a dit, si c'est ce que tu veux faire, eh ben, tu sais à quoi tu t'engages, ça va être 4 ans dur, ben, quand on a 30 ans, c'est pas évident de recommencer des études. Et puis elle avait pas de logement, nous on avait son chien ici, elle lui dit « Maman, je vais me retrouver SDF », parce qu'elle était hébergée, mais c'était trop loin de l'école pour la route et tout ça.
Ce qu'on va faire, alors, attendez, il faut que j'aie la place aux infos.
Oui.
Donc si vous permettez, on fait une pause et puis je vous récupère dans quelques minutes et vous allez me raconter la suite. Et je crois qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en plus derrière.
Ouais.
Ne bougez pas, merci beaucoup. À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et on poursuit nos conversations nocturnes sur Europe 1. Si vous avez envie de parler ce soir, appelez-moi au 3921. Cindy et Kelvin sont prêts à vous répondre et vous guider jusqu'à ma 3921, donc pour témoigner à l'antenne. Et pour réagir par SMS, vous pouvez faire le 73921 suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et je vous retrouve, Brigitte.
Oui.
Donc, vous nous disiez que votre fils s'est lancé, malgré son accident qui lui a fait perdre une partie de sa main, elle s'est lancée dans des études de kiné.
Oui, elle s'est lancée dans les études de kiné. Et donc, à un moment donné, elle dit « Maman, je vais être SDF ». Donc, ce n'était pas facile pour elle d'étudier en ayant l'esprit tranquille quand elle ne savait pas où elle allait loger. Bon, pour finir, elle a trouvé une maison parce qu'avec son chien, il fallait mieux avoir une maison. Et puis, pas trop loin, parce que du fait de ses soins, elle devait être en France tout en étant à l'école en Belgique. Et parce qu'elle a toujours des soins de kiné, et puis avec les différentes opérations qu'elle a eues, c'est pas toujours évident de combiner les cours, les opérations. Elle avait parfois des cours jusqu'à 6h du soir, puis elle devait encore aller chez le kiné. Donc, énormément de fatigue, de douleur, et par moments le moral à zéro. C'était un peu des coups de pied moraux qu'on lui donnait. On lui disait, mais tu vas pas abandonner, mais enfin, c'est pas possible, tu as vu où tu en es. Il faut savoir qu'en première année, elle a pas eu d'examen de passage. Si, elle en a eu, mais elle avait réussi. En deuxième, elle n'en avait pas eu. En troisième, elle en a eu. En janvier, elle n'avait pas d'examen de passage. Et elle vient d'avoir son diplôme.
Ah, ben félicitations.
Elle est diplômée, elle a eu 15,16 sur 20 avec mention.
Bravo, vous êtes fière d'elle. Hein.
Ah oui, ben, de toute façon... Moi, je vais dire que quand on m'avait un jour posé comme ça pour vous, quelle femme admirez-vous, c'était pour la journée de la femme, je dis moi ma fille. ma fille Elisabeth, parce que d'avoir eu cette volonté de ne pas rester sur ce qu'elle avait, ou de dire je vais vivre avec ma pension d'invalidité, ou de se lamenter, ou de dire je vais pas y arriver, ou c'est dur. Il faut dire que pendant 4 ans, elle a tout sacrifié. La natation, le sport, à part qu'elle allait un peu courir pour pouvoir faire, et encore elle faisait en plus des courses caritatives quand elle en faisait. Mais je veux dire, le sport, notamment la natation, les soirées entre amis, les sorties, ça se compte, je sais pas, sur les doigts des deux mains, hein, c'est tout.
Mais oui, le résultat est là maintenant.
Le résultat est là. Et alors c'est ça, je passe très très bien. Je vais dire, demain elle a 10 boulots. Hein.
C'est vrai ?
Partout elle a passé ses stages, partout on est d'accord de l'engager. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, elle est encore opérée le 5 pour son pouce. Alors après, et en plus de ça, l'année passée elle avait été opérée et une semaine après, elle partait 4 jours en montagne, dans les Pyrénées, avec sac à dos et tout. Hein. C'est une randonnée qu'ils font en montagne. Hein.
Oui.
Tous les ans, vers le 14 juillet, elle part 4 jours faire une randonnée avec des amis. Et bon. Et ça monte, hein. Et une année, ils étaient dans les Alpes et ils avaient appris qu'il y avait 2 Belges qui étaient décédés et il y avait un de ses profs qui était décédé.
Mmh.
Et elle est allée, heureusement qu'elle ne le savait pas parce qu'elle est montée où ils étaient décédés. Elle l'a su après. Mmh. Donc, c'est ce qui la tient aussi, mais c'est vrai que il faut se dire que si on veut arriver à quelque chose, eh ben, il faut tout sacrifier, ben on sacrifie tout.
Il faut mettre le
faut donner les moyens d'arriver, c'est dur, mais c'est de la volonté, et quand on dit je veux y arriver, j'y arriverai, je veux y arriver, voilà, même si c'est un sacrifice, eh bien, on se donne les moyens d'y arriver. Et quand on veut, on peut.
Ce que j'aime bien, parce que j'ai l'impression que de plus en plus faire des efforts, ça devient compliqué, les gens ne veulent plus faire d'efforts maintenant.
Eh ben non, mais non. Mais écoutez, moi je vais dire, je me permettais de faire des remarques aux parents que les professeurs pouvaient pas faire. Alors c'était en CE1. Je parle de ça, donc c'était mes filles ou mon dernier, je sais plus. Je parle du temps de Dallas, hein, je vais dire. Ça se dit un peu quand même. Il y a bien 20 ans de ça ou même plus. J'avais des parents qui nous disaient « Ah oui, mais on ne sait pas si nos enfants, ça devient difficile. Et puis, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants parce que je veux regarder mon feuilleton. Je veux dire, c'était Dallas, les feux d'amour. » Bon, le niveau était tout de suite fixé, je vais dire. Parce que je disais, ben nous, quand on a fini avec 4 enfants, il est 10h du soir. Et puis, on n'a pas vu un film, on n'a pas vu une soirée. C'est tant pis, voilà, hein. Nous, on avait fait le choix d'avoir prendre une caravane, une caravane toile à la mer. On habitait à Bruxelles à l'époque. C'était pour le bien de tous, parce qu'on ne pouvait pas partir en vacances. Et donc, il y avait 2 enfants qui partaient chez les parents qui habitaient dans l'Allier et 2 qui restaient là-bas. Et le fait d'aller toutes les semaines de Pâques à la Toussaint, à la mer, eh bien, les enfants étaient beaucoup moins malades aussi. Mmh. Mais c'est un choix. On a toujours le choix dans la vie.
C'est vrai.
Ou on va à gauche ou on va à droite. Mais vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi.
Et votre fille s'est donné les moyens de réussir ce qu'elle voulait, ça c'est formidable.
Et voilà, elle a décidé, on lui a dit les tenants, les aboutissants et tout. Moi, je mets toujours les trucs à plat, le nez dans le caca s'il faut, hein. C'est comme mon autre fille, quand elle s'est retrouvée enceinte, ça a été des surprises du chef. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, si tu le gâtes, moi j'ai été toute seule pendant 3 ans, mes filles avaient 1 an et mon fils avait 5 ans. Donc je lui ai dit, ça va être comme si, ça va être comme ça. Et avec ma fille, je lui ai dit. Et en fin de compte, elle a expliqué aux autres ce qu'elle avait eu. Et pour les autres, ben voilà, c'est pas... ça n'a jamais été un problème, c'était pas un handicap, voilà. Elle a même été au Bénin. Comme ça,
voilà. Si c'est pas un problème pour elle, ça l'est pas pour les autres, c'est assez logique.
Voilà, voilà. Et ça, c'est grâce à mon père. Mon père, tous les jours, pendant des mois et des mois, il l'a appelée au téléphone. Même quand elle était complètement shootée à l'hôpital, il l'appelait. Et c'est lui, vraiment, qui lui a rentré ça dans le crâne. Et puis, ma fille disait, Daddy, on est sorti, il n'y a pas de raison que j'en sorte pas. Surtout qu'on n'avait pas non plus la morphine et tout ça, les médicaments, tout ce qu'on avait, pardon, en 57. Mon père, il a eu son baptisé en Afrique. Il a été pendant un mois à l'hôpital là-bas. On le plongeait dans un bain. Tout ça sans anesthésie, hein, et on frottait avec une brosse en chien dedans. Hein? Sans anesthésie!
Oui.
Et après, il a été transféré, il a encore été un mois à l'hôpital militaire, et puis voilà. Et voilà. Donc, quand je vois des gens qui disent « ma vie est finie », non, il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr et certain.
Et la bascule, elle est exactement comme vous l'avez expliqué, elle est au moment de l'acceptation.
Et, mais là, ma fille, mon père lui a dit « t'as pas le choix, t'as pas le choix, ça repoussera pas ».
Mais le nombre de gens qui n'ont pas le choix suite à une situation et qui la refusent quand même et qui perdent une énergie folle à lutter contre ce qu'ils ne peuvent
mais
pas changer.
Ça ne sert à rien.
Mais je sais bien.
Moi, je vous ai déjà eu au téléphone en disant que moi, je vais dire, je me fous de beaucoup de choses. Moi, je fais 100 kilos et puis, bon, alors, j'espère que maintenant je vais perdre du poids, j'ai pris 15 kilos avec l'accident de ma fille. Hein. Mmh. Alors, elle me dit, mais ça te fait plus à toi qu'à moi. Je dis, oui, ben, c'était ma fille, c'est pas encore la même, hein, c'est encore différent. Quand sont ses enfants, on voudrait prendre leur souffrance et tout ça. Et j'ai pris 15 kilos. J'espère que maintenant, je vais les reperdre. Hein, parce que... bon, mais moi, j'habite à la mer. Je vais en maillot de bain. Et ce que les gens racontent, disent, oh, pff, je m'en fous. Je dis, il y a déjà assez de choses qui nous tombent comme ça sur la patate, sans avoir recherché les ennuis. Alors, pourquoi se faire du tracas parce qu'on a pris 50 grammes ou 100 grammes? Voilà.
Vous avez bien raison, Brigitte.
Et là... Bon, bah, c'est vrai que après, j'ai des gros problèmes pour me sortir de. Je fais un syndrome de fatigue chronique suite au décès de mon papa il y a 4 ans. Mais là, entre ce que j'encaisse, parce que évidemment, c'est toujours moi qui fais le pilier, puis la mort de mon père, bah, c'est encore moi qui fais le plus le pilier. Hein. Donc, je veux dire que comme mes enfants sont dans les quatre coins de France, hein, ça va de. De la Belgique à presque l'Espagne.
Mais j'ai l'impression que vous avez hérité de l'énergie de votre papa. Hein.
Oui, bah de toute façon.
C'est un beau cadeau.
Vous savez, moi, mon premier mari était indépendant, puis on a essayé de me mettre toutes ses dettes sur le dos. Et moi, j'ai dit, mais contrat de mariage, hein, séparation bien très simple, c'est le meilleur contrat de mariage. Hein. Et on n'a jamais pris un bête sur le dos. Et puis, je vais dire, il y a deux choses dans la vie. Enfin, il y a deux, trois choses qui sont importantes. Un bon avocat. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement. Et il y a aussi autre chose. J'ai eu un très mauvais déménagement et les déménageurs ont cru m'avoir. Et j'ai fait un constat d'huissier. C'est eux qui l'ont eu dans le moment. Mmh. Ils ont dû me rendre toutes mes affaires. Ils ont dû payer tous les frais de justice et ils ont dû payer les dommages et intérêts. Ça, c'est deux choses très importantes. Avoir un bon avocat et ne pas s'empêcher quand il y a... Parce que ce que les gens ne savent pas, par exemple, avec Internet, si vous avez des injures et tout ça, vous pouvez faire des captures d'écran. Si c'est régulier, vous faites faire un constat d'huissier. Ça coûte un peu de sous, mais après, un constat d'huissier, c'est inattaquable. Donc, vous pouvez aller en justice, vous avez matière pour.
Qui s'y frotte, s'y pique, à Brigitte. Hein?
Ah, mais moi, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un de très gentil. Mais...
Il ne faut pas vous marcher sur les pieds.
Ah, mais mon père, c'était comme ça, hein. Mon père, mais il était même trop bon encore, mon père. Mais comme je dis, quand je dis stop, c'est stop. C'est fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Hein, c'est comme j'ai dit à ma fille aussi, tu sais à quoi tu t'engages, hein, et ben voilà, on est là, on te soutient, et puis voilà. Mais c'est toi qui t'engages. Et c'est, je l'ai dit aussi à ma fille quand elle a voulu garder le bébé, le week-end de Pâques l'année passée, elle en a entendu. Mais au moins, les gens ne sont pas pris entre elles. Et j'avais dit à ma fille qui était enceinte, je t'en parle aujourd'hui, je ne t'en parle plus jamais. Et elle me dit, oui, mais il y a de mes amis, ceci, et dis-toi, t'en parles plus. Je t'ai dit, je te parle une fois, je ne parle plus. Mm. Et je pars la semaine prochaine avec, enfin non, je pars vendredi chez ma fille, et on part camper avec mes deux petits-enfants, ma fille et mon fils aîné. Voilà.
Formidable, ça m'a fait plaisir, Brigitte, d'avoir de vos nouvelles.
Et puis, je voudrais aussi dire aux parents qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, moi, pendant 7 ans, mon fils aîné n'a pas voulu me parler. Et il était chez mon père, et c'est grâce à mon père. Mon père me dit, tiens, j'ai quelqu'un qui veut te parler. Et mon fils m'a parlé. Alors, on évite les sujets qui fâchent. Mm-hmm. Ça ne sert à rien de remuer la boue. Quand il y a eu des histoires moches dans une famille, eh bien, on fait une croix dessus si on veut continuer à vivre. Sans s'emmerder, sans avoir toujours de la rancœur. Ça sert à rien. On met son mouchoir dessus, on évite les sujets qui fâchent, et ça permet quand même d'avoir des réunions de famille, d'avoir des moments. Hein. Moi, j'ai eu on a fait la photo de la décennie, au mois de mars, j'ai retrouvé mes 4 enfants en même temps. Il y avait 12 ans que ce n'était pas arrivé.
Et oui. 12 ans. Comme quoi, on repositionne ses priorités dans ces cas-là.
Ah, mais de toute façon, moi, mes enfants ont été toujours la priorité, hein. Moi, je me suis, quand j'étais toute seule, il n'y avait pas les restes du cœur, il n'y avait rien de tout ça. Je me suis privée de manger plusieurs fois pour que mes gosses mangent. Hein. Moi, j'ai fait les poubelles hein, pour nourrir mes gosses. Je n'ai pas honte, et mes gosses le savent. Hein. Et mes gosses le savent que j'ai fait les poubelles. Et j'avais un primaire qui disait, je ne peux pas vous donner comme ça, à telle heure je mets les poubelles et devant le quartier. Je peux vous dire qu'il faut mordre sur sa chic hein, pour faire les poubelles dans son quartier, hein, devant tout le monde. Hein. C'est pas évident, hein. Mais il n'y avait pas d'aide, hein. Il n'y avait pas de resto, il n'y avait rien de tout ça. Hein.
Mais j'imagine que c'est ça aussi qui vous a donné cette force de caractère.
Hein. Ah mais de toute façon, j'ai toujours dit, je m'en sortirai, et puis voilà. Moi, on a essayé de me prendre mes enfants et tout ça, jamais on n'y est parvenu, hein. Jamais. Et puis quand je bossais aussi, moi j'avais toujours les oreilles très grandes ouvertes, et j'arrivais toujours à surprendre des tas de trucs sur des tas de personnes. Je n'avais pas fini de m'emmerder. Et c'est comme ça. Moi, je dis, sans écraser les gens, mais de toute façon, j'ai vite appris dans le boulot, il y a les écraseurs et les écrasés. Enfin, c'est vraiment schématique pour dire les uns et les autres. Hein. Mais il y en a qui se laisseront toujours marcher sur les pieds, et puis il y en a d'autres qui disent, jamais on ne marchera sur les pieds. C'est comme moi, j'ai toujours dit, la première gifle, c'est dehors. Mon premier mari m'a giflé, je lui ai dit, de la maison, tu pars. Et je lui ai dit, tu prends tes clics et tes claques, et si dans 8 jours, tout le reste n'est pas parti, tout est sur le trottoir. C'est pour ça qu'il faut, quand on est une femme, d'essayer toujours d'avoir un petit bien, même un studio, même un garage, à son nom pour pouvoir aller se réfugier quelque part.
Ça, c'est vrai quand on peut, oui.
Et de toujours avoir son nom sur un bail. Refusez de vivre avec quelqu'un si votre nom n'est pas sur le bail. Et à la première gifle, on part, on fout le camp. Moi, j'aurais pris mes gosses sous les bras, j'aurais été sous les ponts. Mais il n'y en aura pas jamais eu de deuxième. Jamais. De toute façon, ça a été vite fait. Hein. Je lui ai dit, tu pars.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Brigitte, mais il faut l'avoir, cette force de caractère-là. Tout le monde ne l'a pas.
Hein. Non. Mais moi, je l'ai toujours, mais même petite, j'ai toujours dit ça. Et puis, je crois que, alors moi, j'étais mec comme un clou quand j'étais petite. Et à l'âge de 8 ans, j'étais chez ma marraine, et là, j'ai pris 10 kilos en 15 jours. Parce que ma mère ne m'aimait pas comme j'avais envie, mais sa mère ne l'a pas aimée non plus. Après, en grandissant, quand on sait des choses, on comprend pourquoi.
Évidemment, il y a un éclairage différent. Petite, ouais.
Voilà. Mm. Et ma marraine était maternelle avec moi comme je voulais que ma maman le soit. Et là, cette fois-là, j'ai mangé tout le temps. Mais à l'époque, on n'a rien fait. Et donc, comme j'avais beaucoup grossi, j'ai certainement dû subir les moqueries et je me suis blindée. Je crois que j'avais 8-9 ans et je me suis blindée. Je m'en suis fichue parce que je me suis dit, ça sert à rien de me fâcher, ça sert à rien de me mettre en colère, elle dit ce qu'elle veut, puis comment on a vu que je ne réagissais pas? Mais ils se sont lassés. Comme on dit, un acteur qui n'a pas de succès, il arrête sa pièce. Moi, un gosse qui me fait une crise de colère, eh bien, il va faire sa crise de colère. Et puis, comme il verra que je ne réagirai pas, il arrêtera. Il y avait un gosse comme ça, il faisait des colères pour un oui, pour un non. On ne le satisfaisait pas, c'était une colère. Je dis, moi, tu feras les colères que tu veux, mais je ne bougerai pas. Ma petite fille, c'est pareil. Je lui ai dit, tu sais que c'est pas moi qui céderai. Alors, je te dis, moi, une fois, deux fois, trois fois des choses, je suis pas comme maman. Je suis plus sévère que sa mère. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais mes petits-enfants, mais moi, je suis une grand-mère sévère. Elle avait 3 ans. Elle avait mis ses genoux à table. J'ai dit, pas de manège. On est passé devant le manège. Elle dit, je vais pas au manège. Non, pourquoi? Je n'ai pas été sage. Je dis, tu sais bien que quand je te promets quelque chose de bien, tu l'as. Si je te promets quelque chose de mal, tu l'as.
Brigitte,
et je suis sévère. Mais en fin de compte, ma fille reconnaît qu'elle n'a pas été assez sévère. Il faut dire que le Covid, 3 mois à enfermer à deux, c'était pas l'idéal pour elle non plus. Hein. Mais je pense que c'est aussi comme ça que j'ai forgé mon caractère et que mes enfants aussi se sont forgés le caractère. Parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, comme tous les parents. Et bien, mon dernier me dit, parce que mon dernier, c'est son papa et c'est sa maman. Hein, hein, donc, eh bien, il m'a dit, mais moi, je suis content de la façon dont j'ai été élevée. Oh, c'est vrai qu'on râlait des fois, hein, parce que bah, j'étais assez stricte. Mais après, on comprend.
Ça donne des bases, ça donne des bases solides pour la suite, évidemment.
Voilà. Et lui, il a été militaire pendant 5 ans. Hein. Et il a resté la maison de
son
papa.
On sent quand même que c'est une lignée de militaires dans votre famille, quand même. Hein.
Mais mon père était militaire. Oui. J'ai failli être militaire. Mon fils est militaire. Et c'est j'ai ça. Ma fille, la maman de la petite, donc, qui est infirmière. Et mon fils aîné, ils ont fait une préparation militaire marine.
Et oui, elle est là, voilà. cette rigueur et cette éducation.
Et moi, j'étais fille unique, hein, tandis que chez mon père, ils étaient 6. Alors, je ne vous dis pas, quand on dit aux gosses de faire ceci à 6 ans, lui, il devait cirer les chaussures de toute la famille. Sa sœur jumelle devait ramasser le petit bois pour... Ils avaient tous leur corvée à 5-6 ans. Bon, on dit, il paraît que j'étais esclavagiste parce qu'en week-end, je disais, c'est week-end pour tout le monde, maman fait à manger, vous faites la vaisselle. Et j'avais instauré, un s'occupe du fourre-tout, hein, met la table et l'autre s'occupe de la vaisselle. Et ils tournaient comme ça. Et chacun faisait sa part. Et il n'y avait pas de dispute parce que chacun avait sa semaine bien.
Et ils ont survécu.
Ils ont survécu. Voilà. Mon fils, à 10 ans, il faisait à manger quand il était en colonie parce que les moniteurs ne savaient pas faire à manger.
Et mon fils, à 3 ans, il faisait vous leur avez donné vous leur avez donné des armes pour se battre dans la vie, c'est bien.
Voilà. Ils en ont discuté avec 4 et ils ont dit, oui, c'est vrai, maman a été sévère. Mais juste, hein, dans la majorité des cas, j'étais juste. Hein. Mais j'étais sévère, mais grâce à ça, eh ben, ils savent se débrouiller dans la vie.
Bah, la preuve avec votre fille. Brigitte, ça m'a fait plaisir de vous entendre et vous féliciterez votre fille pour moi, vraiment.
Voilà.
Hein, vous l'embrassez très fort et vous dites un grand, grand bravo. Je lui souhaite plein de bonheur dans sa carrière de
kiné. Voilà, voilà. Oh, ben là, ce qu'elle voudrait, c'est aller dans les dom-toms et visiter et travailler en même temps.
Eh ben, je lui souhaite que ça fonctionne.
Oh oui, oh, mais de toute façon, après, elle reviendra sans doute par ici, et sa sœur jumelle aussi. Donc, je vais peut-être retrouver mes filles d'ici quelques années.
Et bien, vous me rappellerez pour me raconter.
Oui. Voilà.
Je vous embrasse, hein, Brigitte.
Je sais que vous aviez suivi ça. Et puis je pense aussi que ben, c'est pour montrer aux gens que, oui, quand on a un accident, on a un handicap, il faut faire une croix sur la vie d'avant. Et il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir. Et là, il faut la saisir à plein de mains, hein, même si on n'a plus ses mains. Et se dire, il va y avoir quelque chose au bout. Il faut que je fasse quelque chose. Et ça ne sert à rien de se lamenter pendant 107 ans. C'est comme il y a des gens, on les met tous dans une maison, ils vont sortir avec des sacs poubelles, avec des tentures, et d'autres 20 ans après, ils seront toujours en train de se lamenter.
Merci pour le message, Brigitte.
Voilà, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Au revoir et bonne soirée.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Sabine Marin, envoyez le mot « nuit » suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et je souhaite la bienvenue maintenant à Hervé. Bonsoir à vous, Hervé.
Bonsoir, ma chère Sabine.
Oui, c'est bien vous maintenant. J'étais pas tout à fait sûre en lisant votre fiche, mais je reconnais bien votre voix.
Ah, elle vous a fait rêver, ma voix ?
Oh, bah bien sûr.
Je plaisante, hein, Sabine.
J'ai bien compris. Ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, Hervé. Alors, comment allez-vous ?
Ah ben oui, moi aussi, j'écoute souvent vos... j'écoute tout le temps vos nocturnes, là, le week-end, c'est agréable.
C'est gentil.
Et même des fois, les en semaine avec Olivier Lacroix. Et voilà, donc moi, je suis toujours dans mon petit terrain, dans ma petite maison, là. Alors, j'ai une bonne nouvelle depuis, c'est que j'étais papa de 5 petits-enfants, et grand-père de 5 petits-enfants, et je vais être grand-père pour la 6e fois, au mois de septembre.
Ah, félicitations. On sait déjà, on connaît le sexe déjà ou pas?
Oui, une petite fille, une petite princesse.
Ah, la première princesse de la tribu.
Ah oui, non, la deuxième.
Ah, deuxième, bon.
La deuxième, j'ai 4 petits-enfants, 4 garçons, 4 petits garçons, et j'aurai 2 petites filles.
Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'au fil des témoignages, on a souvent dit à quel point l'arrivée d'un bébé, ça ramène aussi de la joie et de l'espoir dans la vie.
Ah oui, complètement.
Ça illumine le chemin de toute la famille.
Hein.
Ouais.
même si on est que le papy. Au contraire, papy, il est là pour détendre un peu tout le monde.
Oui, c'est vous comprenez. Il n'a pas les galères, mais il prend ce qu'il y a de bon, quoi.
Voilà, c'est ça. Il a un rôle de guide, un peu. Pour
c'est
les
vrai,
petits.
C'est vrai.
Pour les petits. Moi, je me souviens, mon père, là, quand il était valide, il prenait sa voiture et puis il partait avec ma petite Marie-France, qui est ma petite dernière, là, qui a 23 ans, au mois d'août. Et puis, on a une petite tête dépensée. Puis ils allaient dépenser à 8 km d'ici, alors les 4 sous. Après, il y a des moyens, mon père, mais je plaisante quand je dis ça, les 4 sous de mon père. Oh, ça, c'est amusant, hein, c'est amusant. Voilà, et puis, voilà, mes parents, ils vieillissent tranquillement.
Alors, j'ai quand même resitué pour les gens qui ne vous connaissent pas. Hervé, vous souffrez d'une maladie?
Ah, voilà, oui, tout à fait.
Qu'on appelle la schizophrénie.
La schizophrénie, voilà.
Et vous aviez à l'époque extrêmement bien parlé de cette maladie. Ça m'avait beaucoup touché la manière dont vous en parliez, le recul que vous aviez par rapport à tout ça.
Oui, oui. Bah oui, j'ai beaucoup de recul parce que j'ai fréquenté des grands psychiatres. On peut en citer quelques-uns peut-être si vous voulez, mais...
Non, ce n'est pas le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça évolue et comment vous allez surtout.
Eh bien écoutez, quand je peux être en amitié, en amour avec les gens, ben ça va très bien. Mais c'est vrai qu'ici, le seul inconvénient, là, ça va l'été, là, les gens, les maisons ouvrent, tout ça. Mais l'hiver, des fois, c'est un petit peu dur.
Dans quelle région êtes-vous?
Je suis dans l'Indre, le sud de l'Indre, le nord de la Creuse.
D'accord, oui, effectivement, en plein hiver, c'est pas très, très...
Ah, c'est un point ingrat, un point ingrat. Les hivers sont durs, continentaux, enfin bon, c'est comme ça. C'est un peu discret. Je vais vous demander, on est sur l'antenne, mais on va pas. Je vais pas vous demander où vous êtes.
Comment je vais? Je vais bien, merci.
Oui, comment vous allez d'abord, et puis et d'où vous êtes?
D'où je suis? Alors, je suis bêtement née à Paris, moi, vous savez. C'est pas très original.
Ah. Cela moi, dit, je suis née ici.
Des vrais Parisiens, c'est plutôt rare.
Ah oui. Je suis née ici, les Moulineaux, vous voyez, moi.
Pas loin, mais en même temps, on ne choisit pas où on est. Hein. On y est pour rien.
Oh non.
On arrive au monde là où les parents se sont posés et là où ils ont pu
nous élever. Nous élever. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très bien élevé, Sabine.
Ah bon? Pourquoi vous me dites ça?
Ah, parce que vous êtes formidable. Vous êtes la détricoteuse de toutes les âmes.
Oh, que c'est joli, détricoteuse d'âmes, ça, c'est mignon.
Hein?
Je vais mettre ça sur ma carte de visite maintenant.
voilà. Et puis, vous détricotez un peu les nœuds familiaux, les nœuds sentimentaux, les nœuds humains, quoi. Parce que finalement, nous, les humains, on fait des nœuds. On fait des nœuds, on fait beaucoup de nœuds.
Ah, on est assez doués, on fabrique de nœuds, oui, ça, c'est clair.
Hein?
Et même dans le physique, quand on arrive à se nouer, c'est le cas de le dire, quand on dit « je suis noué de partout », on se fabrique ça aussi.
Oui.
Hein.
Tout à fait.
La boule au ventre, les épaules qui tirent, tout ça sont des nœuds qu'on
fait,
se fabrique.
Oui.
Hein.
Ouais. Et il est vrai que j'ai une maladie terrible, mais... Enfin, terrible. On n'en meurt pas, on en meurt actif, si j'ose dire, mais on n'en meurt pas comme ça, brutalement.
Mais alors, justement, vous en êtes où de cette évolution? Est-ce qu'il y a eu des crises récemment ou pas du tout? Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes tranquille, à peu près?
Pas du tout, il n'y a plus de crise. Il n'y a plus de crise du tout. Mais mon père est dur avec moi, des fois, hein, il est encore dur. Il est très dur. Ouais. Et pourtant, je l'ai accompagné l'autre jour à Châteauroux, là, puis il allait pour ses acouphènes. Puis je vais faire des courses, tout ça, je leur fais des courses. Ma mère est très gentille, mon père aussi est gentil, mais c'est pas pareil, c'est un homme d'une autre génération.
Il a quel âge votre père aujourd'hui?
Oh ben, il a 92 ans, vous voyez.
Ah oui. Et votre mère?
88.
Oui, donc ce sont des gens âgés, effectivement.
Ah oui, c'est des gens âgés.
Et vous trouvez l'énergie encore de vous occuper d'eux?
Bah oui, parce que mes autres frères s'en occupent pas. Puis vous voyez, moi j'ai beau, j'étais marié deux fois, j'ai eu plein d'aventures dans ma vie, mais je trouve le moyen de m'occuper de deux. Et voilà, parce qu'il y a un petit peu, il y a un peu à laisser aller de la part de mes frères, ils prennent leur distance plutôt. Ils sont avec leur épouse. Moi, j'ai pas de, je suis célibataire. Je suis un cœur à prendre. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde.
Mais tiens.
Mais ah oui, je suis un cœur à prendre.
Est-ce que vous voulez qu'on passe une annonce?
Oh bah, vous pouvez essayer. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je cherche pas. Je cherche la douceur, la gentillesse. Un peu comme la dame que vous aviez avant la dernière.
Isabelle, alors, peut-être.
Isabelle, c'est celle qui avait qui a dit qu'elle avait 54 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est ça.
Hein. Et, ah oui, c'est vrai qu'au niveau caractère, je vous verrais bien ensemble tous les deux.
Vous voyez?
Vous avez cette espèce de soleil dans la voix, cette énergie-là qui serait assez compatible.
Ah, c'est gentil de me dire ça.
C'est vrai.
Bah, vous aussi, vous, c'est un zéphyr.
C'est mignon.
C'est un zéphyr, c'est un vent venu du Sahara.
C'est le vent marin?
Le vent marin, on va dire.
Non.
La bise marine.
Oui.
Et c'est vrai que c'est agréable de s'exprimer parce que, vous voyez, là, on est tous les deux un peu comme dans un petit bunker, on est en train de se parler, puis il y a plein de gens qui entendent. C'est de la folie, ça.
C'est la magie de la radio, surtout la nuit, c'est ça que je trouve extraordinaire.
Ah, c'est la magie de la radio, oui, comme vous dites. Oui, oui. Comme vous dites,
c'est à la fois extrêmement intime et intimiste.
Et en même temps très, très, très exhibitionniste.
Et très impudique, j'allais dire, oui, c'est ça. C'est un mélange des deux, c'est ça que j'adore en radio.
Oui. Puis vous avez toujours la bonne parole, vous avez toujours le bon mot pour vos, j'allais dire, pas vos patients, mais vous êtes une bonne écoutante.
C'est gentil, j'essaye.
Ah oui, très bonne écoutante.
Je fais de mon mieux en tout cas.
Vous avez beaucoup de finesse d'esprit, beaucoup de qualité humaine sûrement derrière tout ça.
Mais dis donc, c'est ma fête ce soir, c'est gentil.
Ah bah vous voyez, vous m'avez pris parce que vous avez dit je vais bien finir la soirée avec Hervé.
Non, je ne savais pas, mais je suis encore plus contente de vous avoir pris. Non, c'est vrai que pour finir la saison, ça me faisait plaisir d'avoir des nouvelles aussi d'anciens, des gens que j'avais déjà eus, dont je me souvenais, et de savoir un petit peu comment ils vont. Ça me fait très plaisir tout le week-end, comme ça, d'avoir des témoignages de gens avec qui on a pu échanger, qui m'ont marqué.
D'accord.
Et puis tout simplement de prendre de vos nouvelles, quoi, de vous savoir. Et là,
ce que j'entends. Vous prenez soin des gens.
Ce que j'entends me fait plaisir, là, Hervé, parce que je vous trouve bien.
Ah, bah, je suis bien, oui. Quand je suis bien, je suis. Vous savez. Il y a une période de ma vie où je prenais des médicaments toujours, mais j'en prends toujours d'ailleurs, j'en prends
oui,
à toute ma vie.
Je voulais vous poser la question quand même, vous allez bien, mais vous n'avez pas laissé tomber les médicaments.
Ah, je ne laisserai jamais tomber les médicaments.
C'est bien, c'est d'accord.
Et je prenais je ne prends pas que ça, mais je prends de la paroxétine comme Isabelle.
D'accord.
Donc si elle veut qu'on se contacte.
Vous aurez un sujet de conversation en commun.
Eh bien, qu'elle m'appelle, hein, Cindy ou Kelvin, ils peuvent donner mon numéro à Isabelle.
D'accord, ils me font signe que c'est bien
noté. Et à ceux qui veulent, il n'y a pas de souci, à celles qui veulent.
Non, pour en revenir aux médicaments, beaucoup de gens font l'erreur quand ils ont l'impression d'être stabilisés, d'aller mieux, de lever le pied sur les médicaments. Et quand on a une maladie grave, surtout pas, bien sûr, surtout pas.
Faut pas.
Mais comment vous sentez-vous, Hervé, par rapport à vos parents là, qui sont vieillissants et qui, forcément, vous le savez, sont appelés...
Ah bah ils ne sont pas éternels, mais bon, je me sens bien. Sauf qu'un jour, lui, je vais me retrouver tout seul.
C'est pour
dans
ça que
toute maison.
Oui.
Et puis, j'ai un pied-à-terre à Montrouge, vous voyez. J'ai un pied-à-terre à Montrouge, j'ai un petit appartement en location.
Donc, vous n'êtes pas forcément toujours dans la Creuse, du côté de la Creuse, là.
Si, je suis toujours dans la Creuse, là, parce que tant en tant qu'ils sont vivants, j'en profite.
Oui, mais pour l'instant, ça, c'est ce que je veux dire pour l'instant. Ouais. Mais à terme,
j'en
vous pouvez...
Oui. J'en profite,
vous
c'est
êtes
pas...
Là. Non, mais vous êtes là, quoi.
C'est pas par malversation, mais j'en profite pour
dans le bon sens
être auprès d'eux. Parce que je m'entends très, très bien avec ma mère. Je m'entends très, très bien avec ma mère.
Ils sont conscients de votre présence, de ce que vous faites pour eux? Ils sont reconnaissants? Parce que vous me dites, mon père est encore dur avec moi.
Ah bah oui, bah lui, mon père, il est très dur. Hein. Je suis quand même, il est fils unique, hein, vous voyez. Il est en 1930, hein, vous voyez, il a connu la guerre, les rationnements, les cas de rationnement à Paris, justement. Et puis ma mère, elle est d'ici. Je suis dans la maison où elle est née et où sont nées mes tantes et oncles.
Ah oui, c'est vraiment la maison de famille, quoi.
Ah, c'est la maison de famille par excellence.
Et vous pensez la
c'est
garder
la maison de mon grand-père.
Vous pensez la garder après cette maison?
Oui, elle m'est destinée.
Oui.
On est passé devant le notaire, déjà.
Mais qu'elle vous soit destinée, c'est une chose, mais est-ce que vous avez, vous, envie d'y rester, d'y vivre?
Ah oui, oui, bah oui, oh oui.
Non, parce que j'avais, il y a, je ne sais plus, deux ou trois week-ends de ça, j'avais quelqu'un qui me disait l'inverse. D'abord, ça lui coûtait beaucoup trop cher, et puis elle me disait, j'ai trop de souvenirs qui ne sont pas les miens.
Ah oui, ah bah oui.
Et quelquefois, on n'a pas forcément envie de poursuivre l'histoire familiale, mais vous aussi, vous avez envie de ça.
Moi, j'aime bien, ça me ressource.
Oui.
Puis je me sens très bien, d'ailleurs, Maxime disait, par téléphone, elle me disait, je sens que vous allez beaucoup mieux depuis que vous avez arrêté de travailler. Ben, je suis à la retraite. Mais, vous voyez, depuis le mois de septembre, je suis à la retraite officiellement. Mmh. J'ai pas une mauvaise retraite, j'ai une petite retraite, mais une moyenne retraite, on va dire. Et voilà. Puis, bon, bah, il manquerait plus qu'une femme gentille, sympa, douce. Voilà. Et puis, moi, je demande rien à la vie, hein, si ce n'est qu'un peu d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. J'ai mes amis qui sont là, dans mon petit bled.
Et c'est ça, c'est extrêmement important aussi.
Ah, c'est important, oui.
C'est une grande partie de notre équilibre, nos amis.
Tout à fait.
Par contre,
c'est un catalyseur.
Vous n'avez toujours pas arrêté de fumer, hein?
Non. Mm. Non, je fume beaucoup.
Ben oui.
Mm. Vous eussiez aimé que je m'arrêtasse de fumer?
Oh, comme c'est joliment dit. Bah, c'est-à-dire, je me dis souvent que quand le corps doit déjà lutter contre une maladie, il faut l'aider. Et que, et que l'encrasser, ça n'aide pas.
Bah oui. Bah
et donc,
oui,
aller se mettre volontairement du goudron, de la nicotine dans les poumons et dans le corps, ça ne paraît pas une bonne idée, quoi. Je dis
bah
ça,
oui,
je dis rien,
bien.
Mais bon, c'est votre vie.
C'est plus à la mode.
De fumer?
C'est plus à la mode, ouais, de fumer.
Bon, heureusement que c'est plus à la mode. C'est même pas une question de mode, c'est une question de santé. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Sauf qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait. À l'époque, on savait pas. Donc on peut encore dire, ok, je savais pas. Maintenant, vous pouvez pas dire, vous savez pas. On sait exactement ce qu'on fait. Donc c'est un choix aussi. Comme on le disait tout à l'heure avec Brigitte, nos choix ont des conséquences.
Eh oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc tant que vous avez le choix, ça serait bien de pouvoir lever le pied un peu là-dessus. Aider votre corps à continuer à être bien le plus longtemps possible.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Ben oui.
Ah oui. Vous voyez, moi j'ai quand même mes enfants, mes petits-enfants, tout ça. J'ai de la famille, alors j'aimerais un jour peut-être... vous voyez, j'ai pas fêté mes 40 ans, j'ai fêté mes 50 ans avec mes amis, puis après mes 60. Mais par contre, je ne fêterai mes 70 ans qu'avec ma famille ou pour rien du tout.
Pourquoi?
Bah parce que ça passe trop vite, les décennies, ça passe vite.
C'est curieux de prévoir ça 7 ans avant quand même. Vous ne savez pas dans quel état d'esprit vous serez dans 7 ans. Vous
avez puis on ne sait pas où on sera.
Bah oui, personne ne sait où on sera dans 7 ans.
Oh non.
Mais certes, les années passent vite, mais moi je trouve que c'est un privilège de vieillir. Il y en a qui, tout le monde n'a pas cette chance-là. Hein.
Ah oui, tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai un ami à moi qui est un... Bah, je peux citer son nom. Hein, c'est un grand ami à moi qui est décédé, qui s'appelait Josquin Pouillon. Il faisait des beaux tableaux. C'était un beau coloriste. Et il a été emporté par un cancer du pancréas rapidement. En 2 ans, ça a été plié. Pendant la période du Covid, tout ça au début du Covid.
Ah oui, donc c'est récent.
Ah oui, il y a 2 ans. Ouais. Il y a plus de 2 ans. Et puis, il a laissé ses filles, ben ça fait de la peine, mais ses deux grandes filles qui sont encore étudiantes, voilà. En fait, il leur a laissé une belle maison, puis leur maman, elle est gentille avec elle. Mais vous voyez, mais ça fait un drame. Ça fait un drame, vous voyez. Bah, écoutez, d'ailleurs, je vais les accompagner là au train, là, bientôt. Là, elles vont rentrer. Et je les accompagne sur le taxi un petit peu pour certaines personnes, avec la voiture de mon père, tout ça. Enfin, c'est avec des gens que je connais très bien, très très bien. C'est pas des gens qui profitent. C'est des gens, des amis. C'est des amis plus que des amis. Presque de la famille, mais c'est des amis.
Oui.
Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Dire aux gens qui profitent de chaque instant, que chaque instant nous est donné, et que la vie, c'est ici et maintenant, c'est pas dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est pas le commissariat au plan, quoi.
Mais je vous aime bien tous ce soir, vous êtes extrêmement philosophes les uns et les autres, et plein de sagesse.
Ah oui,
mais oui.
Ah oui,
c'est exactement
oui.
Ça, comme on dit, le voyage, c'est le bonheur, c'est pas la destination, c'est le voyage.
C'est le voyage qui est important, voilà.
C'est ce qu'on vit chaque jour, et sinon on passe complètement à côté, quoi.
Moi, la première fois de ma vie que je suis en Afrique, c'est en Centrafrique, c'était la première fois que je prenais l'avion, et ben, je m'en souviendrai toute ma vie de ça, toute ma vie.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ce jour-là?
Ah ben, j'ai fait une escale à Rome, et c'est tout. Et puis je suis parti là dans l'avion. Oh, ça m'a paru bien, agréable, sympa. Je partais pour une aventure. J'avais l'impression que le cerveau, il était dans l'avion, c'est mon cerveau. Et puis que voilà, je décollais. On montait dans les cieux. C'était marrant. Hein. Je suis pas trop avion, moi, parce que je préfère le train. Mais enfin bon, à cause de l'atterrissage. Une fois, j'avais fait un trajet Paris-Moscou-Douala. J'avais fait transit à Moscou, dans l'Aéroflot. Et j'étais tombé sur une dame qui était une Russe, qui n'était pas très gentille avec nous, hein. Agressive. Une femme qui servait de... Je sais pas comment on peut appeler ça, d'hôtesse d'accueil, je sais pas quoi. Parce qu'il y avait un steward qui avait perdu son passeport, sa carte de service. Puis je parle un peu le russe, alors j'étais allé lui rendre le truc en lui disant que c'était un tel, et puis elle m'avait envoyé, elle a dit, je sais plus quoi, elle m'a mal répondu. Je sais pas pourquoi, peut-être des soucis, j'en sais rien. Et puis après, j'ai pris mon avion pour Douala.
Voilà, c'est fou de se souvenir de tout ça si longtemps après. En tout cas, Hervé, moi, ce qui m'intéresse dans votre message, c'est déjà, vous avez fait passer la première fois, c'est qu'on peut souffrir d'une maladie aussi grave que la schizophrénie et trouver son équilibre.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est quand même un message extrêmement positif.
Vous avez quand même plusieurs stades de schizophrénie. Hein. Il y a plusieurs stades.
Oui, bien sûr. De toute façon, je pense qu'il y a autant de malades qu'il y a
que de schizophrène.
Que de maladie, oui, tout à fait, c'est très différent.
Oui, oui.
Dans chaque maladie, c'est pareil, hein. Chacun le vit et développe différemment.
Bien sûr.
Mais en tout cas, c'était un message extrêmement positif, parce qu'on a tellement... Ce sont des maladies qui font tellement peur, on a tellement de préjugés en plus là-dessus.
Oui. Ah bah oui, parce qu'on...
C'est ça qui est terrible, c'est les préjugés qu'on...
On passe pour des coupeurs de tête, hein, les schizophrènes.
Oui, c'est un côté spontanément effrayant, oui, tout à fait. Parce que c'est un terme aussi un peu galvaudé maintenant.
Alors qu'on n'est pas forcément... La plupart des schizophrènes sont très gentils, hein.
Bah bien sûr, il n'y a pas de lieu commun. Mais je pense
qu'il y a 1%. Il y a 1% de la population qui est schizophrène, et sur les 1% des schizophrènes, il n'y a que 1% des schizophrènes qui sont dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes.
Oui. Mais comme d'habitude, on ne pointe du doigt que le pire, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et puis, c'est un terme qui a été galvaudé. On dit schizophrène pour n'importe quoi, maintenant.
Dès
que quelqu'un déraille un peu, on dit, de toute façon, t'es un schizophrène. Donc, forcément,
oui, t'es un schizo. Alors, on se moque un peu de tout. C'est comme si on disait un cardiaque. On insultait quelqu'un en lui disant, t'es cardiaque.
Mais ça n'a aucun sens, c'est vrai.
Et puis, tous les cardiaques, il y a des cardiaques qui sont opérés du cœur et qui commettent des meurtres. petite infinité, mais...
Votre histoire permet vraiment d'arrêter un peu les clichés sur tout ça, et les peurs inutiles, en tout cas, ça c'est une bonne chose.
Ah oui, il ne faut pas, déjà, on a déjà... Mais vous voyez, c'est ce que disait Albert Camus, il disait, lui, à travers ses romans, l'étranger de Camus, j'avais étudié à l'école, et en réalité, tout ce qui est étrange, donc inconnu à l'esprit humain, fait peur.
Oui, tout à fait.
Tout ce qui est connu ne fait plus peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'attrapera pas un accident.
C'est ça, ce qui est très paradoxal, parce que finalement, c'est ça. On peut être face au même danger, mais si on le connaît, on le ressent beaucoup moins comme un danger.
Exactement. Mm. Par la peur des étrangers.
J'allais vous dire, le racisme, c'est juste ça. C'est la méconnaissance de l'autre. Oui, tout à fait.
Exactement. Mm. Mm. Et déjà qu'on ne s'étripe pas en pleine famille, entre familles, au sein d'une même famille. Mais ça, c'est ce que me disait une dame qui avait connu la guerre, tout ce qui avait fait la guerre, qui est décédée aujourd'hui. Elle m'avait dit, oh, vous croyez que chez les autres c'est mieux, et c'est pas mieux chez les autres.
Ça c'est vrai. Et on l'entend souvent ici, justement.
Ah, voyez.
L'un des rares endroits où on peut aller regarder la vie des autres, la Libre Antenne.
Ah oui.
Bon, en tout cas, Hervé, vous allez bien, ça me fait plaisir. Vous avez encore la force de vous occuper de vos parents, et bravo pour ça. Et puis, j'entends que voilà, ensuite la vie va continuer, vous allez rester dans cette maison et vous aimeriez bien arriver à construire une belle relation avec quelqu'un. Peut-être Isabelle réagira à votre message si elle est encore à l'écoute ou si elle réécoute l'émission en podcast. Peut-être ce ne sera pas Isabelle, ce sera quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je vous le souhaite.
Peut-être.
De trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, avec qui vous serez heureux.
Tout à fait, Sabine. Et ben vous aussi, soyez heureuse et bonne continuation, bon week-end et bonne nuit. Et merci encore pour tout, Sabine.
Je vous souhaite le meilleur, Hervé.
Merci, je vous embrasse.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir, Sabine.
Sur Europe 1, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Et il est l'heure de refermer la page de cette Libre Antenne, car il est presque 1h du matin. Merci à tous d'avoir été là. Ce soir encore, merci pour votre fidélité. Je vous propose qu'on se retrouve demain soir à partir de 23h pour la dernière Libre Antenne week-end de la saison. Et comme je vous l'ai dit, ça me ferait très plaisir pour terminer cette saison que ceux qui sont passés à l'antenne avec moi et dont la situation a évolué viennent me donner de leurs nouvelles. Si vous êtes concerné, vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un message, soit par mail. Je vous rappelle l'adresse libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Vous laissez bien votre nom et votre numéro de téléphone. Cindy et Kelvin vous rappelleront demain soir. J'ai failli dire Nicolas, l'habitude. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921, car le répondeur va déjà être branché dans quelques secondes. Donc vous laissez un message sur le répondeur. Et pareil, Kelvin et Cindy, demain soir, relèveront le message. Et vous appelleront. J'aurai grand plaisir à vous retrouver, en tout cas demain. D'ici là, passez une bonne nuit. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Ne laissez pas plus tard devenir jamais. À demain.